paraît que l'on vit tous dans un sous-marin jaune. Bonsoir, nous sommes de chaque thématique, qu'elle soit politique, économique, associative, étudiante ou navale, qu'elle soit nationale, locale ou sur un point égaré des eaux internationales. Sonar activé, périscope remonté, rien ne nous échappe. Ici Tiphaine, votre commandant de bord pendant cette heure en eau profonde et avec moi, ce vendredi, au poste de manœuvre, Thomas, Antoine, Clara, Mathilde et Flavien. Ce soir, au sommaire du sous-marin, nous parlerons cinéma avec l'association Les Amis du Bon Cinéma. Son directeur François-Noël Pavy nous a accordé une interview. En deuxième partie d'émission, Antoine exceptionnellement poussera sa gueulante de la journée. Clara, à la barre pour sa rubrique sexo et bien ancrée dans l'actu, tu nous parleras de l'orientation sexuelle.
En effet.
Enfin, Mathilde, explosive, nous racontera sa soirée au T-Rock et nous livrera ses bons plans de sortie pour la semaine à venir. Vous retrouverez l'agenda de ce soir et vendredi oblige le zapping de la semaine concoctée par Flavien. Mais d'abord, bonsoir Thomas.
Bonsoir Tiphaine.
Voici voilà ton billet d'humeur et tu as une comptine en tête cette semaine.
Hollande s'en va en guerre, Miroton, Miroton, Mirantaine. Hollande s'en va en guerre, ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra. Voilà, voilà. Après avoir chanté ça toute la nuit, mon pacifisme avait une sacrée gueule de bois au réveil ce matin. J'avais commencé ma soirée un soir de 2003, où nous avions décidé, mon groupe d'amis et moi, de boire un verre pour saluer le discours historique de la France à l'ONU contre la guerre en Irak. Quelle cuite, mes amis, quelle cuite! Je me réveille 10 ans plus tard et c'est very bad trip dans ma tête. J'apprends qu'une décennie s'est passée et qu'il est loin le temps où la France s'opposait à l'interventionnisme américain au Moyen-Orient. Depuis l'ère sarcolithique, la France est revenue dans le giron de l'OTAN et se sent obligée de prouver à son allié américain qu'elle en a dans le pantalon. Alors depuis 2007, la France fait péter le treillis, sort ses gros muscles et a décidé de suivre ses camarades au pas de course en Irak et en Afghanistan. La France n'a pas voulu s'arrêter là. Elle a décidé de virer Kadhafi de Libye car il avait mal rangé sa tente après être venu camper dans le jardin. Elle aurait bien voulu s'en prendre aussi à Bachar, le méchant dictateur syrien, mais il a de gros missiles. Donc la France a préféré aller défoncer une armée de pick-up qui traversait le désert malien à découvert. On peut déjà d'ailleurs faire un premier bilan de l'installation d'un régime démocratique au Mali. Ibeka, président nouvellement élu, a déjà critiqué dans une interview la position de médiateur des Français à Kidal. On aimerait bien pouvoir massacrer des Touaregs en paix, maintenant que vous nous avez prêté des armes. Fort de ce bilan démocratique honorable, la France se propose d'aller évangéliser la Centrafrique. Mais attention, ce n'est pas de l'interventionnisme. On a un passe-partout délivré par l'ONU. On peut d'ailleurs également compter sur le soutien moral des Américains qui, par l'intermédiaire de John Kerry, ont déclaré « Nous n'aurions jamais dû pu faire aussi bien que l'opération Serval de la France au Mali. » Traduction de l'américain « Nous, on s'est mis dans la merde au Moyen-Orient, alors cette fois, allez-y, sans nous. » Un passe-partout de l'ONU. Qui peut vraiment croire que l'ONU joue un rôle dans le maintien de la paix ? En Syrie, là où elle aurait pu faire preuve d'initiative pour éviter le massacre de 123 000 personnes, pour éviter le déplacement de 2 millions de réfugiés, ou pour éviter à des milliers d'enfants de se faire torturer et sodomiser dans les prisons secrètes du régime, l'Organisation des Nations Unies a préféré rester immobile, car la Russie voulait garder son port d'accès à la Méditerranée. L'ONU n'est plus qu'une potiche où l'on parle à la tribune de liberté et de droit des peuples et où on négocie en sous-main avec beaucoup, beaucoup de lobbying, vente d'armes, intérêts stratégiques et degré d'acceptabilité des génocides. Remarque, on ne peut pas lui en vouloir à cette organisation. Créée en 1945, elle n'est plus du tout adaptée à la géopolitique actuelle. D'ailleurs, qui peut se rappeler de la dernière opération de l'ONU qui a vraiment permis de restaurer la paix ? Enfin, je parle pas de différer la guerre, hein. Je parle de vraie réconciliation entre les peuples. Alors, quand on dit que la France va pouvoir intervenir en Centrafrique grâce à une résolution adoptée à l'unanimité, cela me fait vraiment sourire. Car en fait, la France est la seule puissance à disposer de bases permanentes sur le continent africain. 4, pour être exact, héritage de notre passé colonial. Passé colonial qui explique en partie le marasme actuel en Centrafrique. Pendant la décolonisation, on a laissé en place nos bases militaires comme pilier de la politique france-africaine. L'accord était le suivant, en gros. Laissez-nous vous protéger en échange de vos ressources naturelles. Accord qui a évidemment entraîné corruption et népotisme sur tout le continent africain, car pour pérenniser les contrats, il fallait bien laisser en place celui qui les avait signés. Seulement voilà, ils sont tous morts. Alors à son arrivée au pouvoir, François Hollande a déclaré que les relations France-Afrique se feraient désormais sur un pied d'égalité. Normal.
Hubert Védrine venait de lui apprendre que l'Afrique pouvait être un marché énorme pour nos entreprises. 1 milliard de consommateurs potentiels dans 20 ans et déjà 300 millions à satisfaire. Remarque, Air France l'a bien compris et se fait déjà beaucoup d'argent avec les liaisons France-Afrique. Total, beaucoup d'argent avec son pétrole et Areva, également pas mal, avec le minerai d'uranium qu'il sous-paye. Seulement voilà, notre vieille politique a conduit à l'aveuglement et nous a coûté cher. Entre 2003 et 2013, la part de marché de la France sur le continent africain est passée de 10% à 5%. Chinois, Indiens et Brésiliens sont en effet passés par là. Alors, on sort les fusils en espérant décrocher de gros contrats. On espère installer des positions dominantes en misant sur les faits que les pays libérés signeront de gros contrats avec les pays libérateurs. Les Américains ont eu la même idée en Irak. Riche idée. On me rétorquera que la Centrafrique n'est pas un pays riche. Eh bien, c'est pas grave, on s'en servira comme démonstration pour nos ventes d'armes au Moyen-Orient, zone dans laquelle nous sommes en passe de décrocher d'énormes contrats de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Quand comprendra-t-on que la meilleure façon de faire des affaires n'est pas de larguer des bombes, mais bien de construire des écoles ? Il suffirait de former la police localement, de s'assurer qu'elle soit bien payée, et en échange, installer des succursales de grandes universités comme la Sorbonne. C'est sûr, c'est le genre de graine qui met longtemps à fleurir, mais dont l'éclat est sans pareil. En fait, je crois que la France a peur. Son économie s'effrite, son rayonnement culturel décroît, son potentiel technologique est menacé par le chômage, alors elle roule des mécaniques. Telle une belle blessée, au lieu de se faire soigner la patte, elle préfère montrer ses griffes.
C'était le billet d'humeur de Thomas que vous retrouvez tous les vendredis. Le cinéma Gaumont Les Variétés ferme en centre-ville, un cinéville va ouvrir au Pont-de-Cé, le festival Premier Plan dans un peu plus d'un mois et au milieu de cette actualité, voici les Amis du Bon Cinéma. Ils œuvrent depuis 30 ans pour amener le 7e art en milieu rural, 18 points de projection itinérants, 6 salles fixes. Mais les Amis du Bon Cinéma sont en redressement depuis le 22 octobre. Pour parler de cela, mais aussi des projets des Amis du Bon Cinéma, le sous-marin a rencontré François-Noël Pavy, son directeur. C'est un entretien enregistré mercredi. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Les Amis du Bon Cinéma sont en redressement depuis le 22 octobre, donc ce n'est pas une liquidation. Concrètement, ça veut dire quoi et qu'est-ce que vous prévoyez au sein de l'association ?
Donc, être en redressement judiciaire, ça ne veut pas dire être en liquidation, c'est-à-dire que nous poursuivons notre activité. On va dire presque normalement, à la différence qu'il y a un mandataire judiciaire nommé par le tribunal de grande instance, des procédures collectives, qui est nommé pour suivre nos comptes et pour nous donner un délai pour nous redresser financièrement.
Mi-avril 2014, c'est bien ça ?
Voilà, tout à fait.
Et alors vous allez lancer une souscription publique pour aider l'association ?
Oui, alors après, toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Nous avons déjà commencé à mettre en œuvre une souscription auprès de cinéphiles qui viennent dans nos salles, qui fréquentent ou pas d'ailleurs nos salles, afin de conserver l'activité itinérante principalement en zone rurale. Et donc, ils peuvent défiscaliser en fonction des dons qu'ils donneront à l'association.
Alors, l'actualité du cinéma dans le Maine-et-Loire, c'est la construction pour 2015 d'un cinéville au Pont-de-Cé. En 2011, il y avait déjà un projet Mégarama au Pont-de-Cé, sauf que les Amis du Bon Cinéma et Claude-Éric Poirot du cinéma Les 400 coups, vous aviez déposé un recours et le projet avait été retoqué. Qu'est-ce qui a changé dans la situation pour que le projet de Cinéville se fasse en 2015
Pas grand-chose, puisque on est à peu près sur le même nombre d'écrans, c'est-à-dire 6 écrans, 6 salles, et à peu près 1200 fauteuils. Donc rien n'a changé sur la taille. Sauf l'opérateur, qui est un circuit, Cinéville étant un circuit qui rayonne sur l'ouest de la France, à différence de Mégarama, donc peut-être moins agressif, mais qui a les mêmes objectifs que Mégarama, c'est d'arriver à une fréquentation aux alentours de 300 000 spectateurs. Donc la différence, c'est que le projet est repoussé de quelques centaines de mètres. Il n'est plus sur la zone initiale d'Arena initialement prévue, mais sur la zone Décathlon du village Auxilane, où il y a déjà le magasin Décathlon que l'on connaît. Donc voilà, après, vraiment rien de changé, à part un projet de l'agglo de faire une voie d'accès, un échangeur sur l'axe Cholet-Angers, mais concrètement, rien de changé en soi, quoi.
Alors, dans les interviews que vous donnez en ce moment, puisqu'on vous voit beaucoup dans les médias, vous expliquez que le projet s'est fait en catimini. Ça veut dire que les acteurs locaux du cinéma n'ont pas été mis au courant?
Ce qui avait été formulé par l'aglo et le maire des Poncés quand le projet a été retoqué sur le projet Megarama, c'est-à-dire on a fait une erreur, on a fait les choses sans consulter les exploitants du secteur, c'est-à-dire de la ville d'Angers et nous en l'occurrence. Donc je pensais que ça allait partir d'une bonne intention, et même Gaumont le pensait, qu'il y avoir une réunion suite à ça, collégiale, et de se mettre tous sous la table pour dire, voilà, peut-être bon de discuter, qu'il y ait des besoins en Sud-Loire, que Gaumont ait le monopole, ça c'est un fait, le monopole des films généralistes, comme les 400 coups, le monopole des films à essai. Ils ont leur tarification qui est propre, mais aujourd'hui, le Gaumont, ils sont pas en concurrence. Nous, il faut savoir quand même pour l'histoire, parce qu'on a évoqué le nombre de salles qu'on a sur le département, mais avant que le multiplex existe, donc là, il y avait les trois complexes du boulevard Foch, nous avions Georges Brassens à Vrier, le théâtre de l'Hôtel de Ville à Saint-Barthélemy, l'avant-scène à Trélazé, le théâtre des Dames au Poncé, et tout ça en disant, toutes ces salles-là ont fermé. Parce que les salles qui sont proches d'Angers, des villes dont je citais, les clients se sont déplacés rapidement sur le multiplex. Donc voilà, ça a déjà eu un effet dévastateur. Donc partant de ce principe, l'idée c'était que les élus, enfin que l'aglo, nous convoque et qu'on puisse discuter des besoins. Ce qui n'a pas été le cas, puisque les choses ont continué à se faire. Le maire des Poncés est resté dans son idée en essayant de convaincre, en envoyant des courriers aux élus du Sud-Loire, pour lesquels apparemment il aurait reçu une quinzaine d'approbations pour un cinéma en Sud-Loire, et dans ces communes dont il fait état, il y a des communes où nous allons en circuit itinérant, et dont les élus souhaitent que nous continuions à y aller, pour faire quoi comme entrée s'il y a un projet multiplex en Sud-Loire, je me pose la question. Où est l'intérêt? Ou alors à ce moment-là, si nous devons continuer à aller dans ces petites localités, ben il faut que ce soit vraiment un service d'intérêt public, d'intérêt général, et que nous soyons subventionnés à la hauteur de ce service. Il faut savoir que nous avons moins de 8% de subventions d'État pour notre fonctionnement, pour une association qui employait 13 salariés et qu'aujourd'hui n'en a plus que 9. Les pertes en entrée seront du même ordre que dans le projet Megarama, c'est évident.
Vous comptez déposer un recours devant la commission départementale d'aménagement commercial?
Ça va dépendre des négociations. Il y a de fortes chances qu'on y aille tout seul, parce que je ne pense pas que les 400 coups, vu les papiers que j'ai vus dans la presse récemment, que les 400 coups iront en recours contre Cinéville, puisque Cinéville a déjà rencontré Claude-Éric Poirot à ce sujet, pour avoir son sentiment. Il pourrait s'inquiéter plus, effectivement, s'il y avait un projet du côté de l'Ouest, c'est-à-dire du côté d'Atoll. Mais donc, s'il faut y aller, nous irons, nous n'avons plus rien à perdre. Sauf que si on va en appel, on ira en appel, le jugement sera sans doute rendu après les élections, ce qui change un petit peu la donne. Il y a les élections, c'est pas sur les élections forcément d'Angers, mais sur les élections de la communauté d'agglomération, où là, tout peut changer et évoluer. C'est pour ça que le temps presse, je pense, pour Cinéville, et que c'est le moment d'alerter, de tirer un petit peu les curseurs, de savoir ce qu'il est possible de proposer. Donc si Cinéville revient vers nous et nous fait des propositions intéressantes, pourquoi pas, et à ce moment-là, nous n'irons pas en appel. Si la ville d'Angers, par rapport aux variétés, la reprise éventuelle des variétés et des projets, enfin des solutions que l'on peut apporter, ça pouvait aboutir, pourquoi pas.
Alors justement, vous parlez des variétés. Vous avez effectivement émis l'idée de mettre en place une délégation de services publics pour reprendre la salle. Ce serait pour en faire quoi?
Il y a un souci technique aux variétés. C'est le problème de l'accès handicapé pour 2015. C'est pour ça que la ville d'Angers n'a pas racheté le bâtiment à Gaumont, qui n'appartient pas qu'à Gaumont, c'est d'une copropriété. Donc c'est assez compliqué. Mais même si nous pourrions exploiter deux ou trois salles, ça permettrait effectivement de nous remonter, de proposer quelque chose de différent. Alors c'est quoi? C'est pas d'aller sur les plates-bandes, ni aux 400 coups, ni au Gaumont. Donc c'est de proposer autre chose, c'est ce que j'ai dit dans la presse, c'est de pouvoir proposer une prolongation des programmations quand les films à essai décrochent aux 400 coups, et c'est la même chose pour les films généralistes qui sont au Gaumont. Donc c'est de les reprendre à des tarifs forcément préférentiel. Et au-delà de ça, d'essayer de proposer dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, de proposer des séances périscolaires entre 16h et 18h sur des films pédagogiques, sur des films récréatifs. Et peut-être aussi de consacrer un écran aux rétrospectives des films du patrimoine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les films, que ce soit de Lautner, de Chabrol, de la Nouvelle Vague, des Godard, des Truffaut et j'en passe les meilleurs, et même des films américains, sont en train de se numériser, donc sur des lisibles sur des projecteurs numériques. Ça peut être très très intéressant de travailler vraiment, de consacrer un écran exclusivement sur le patrimoine.
Vous avez une réponse de la mairie concernant ce projet ?
Non, je les ai rencontrés, puisque j'avais envoyé un courrier, donc j'ai été reçu. Donc on a entendu mes demandes, mais je pense que les demandes affluent depuis quelques mois de la mairie d'Angers, puisque tout est, peut être proposé. Il y en a qui veulent en faire des salles de concert, des salles d'exposition, etc. Donc la mairie, pour l'instant, je pense, consulte un petit peu tous les gens qui ont des projets autour de ce bâtiment, sachant que la mairie n'en est pour l'instant toujours pas propriétaire. Est-ce qu'elle sera avant les élections ? On ne sait pas. On ne sait pas non plus l'intention de Gaumont à qui elle va vendre. Elle peut vendre aussi à un privé pour faire complètement autre chose. Donc aujourd'hui, voilà. Après, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, de suite aux articles, il y a des gens, des différences... partis politiques qui ont trouvé pertinent les propositions que j'ai faites à la mairie d'Angers et de le soutenir.
Le projet dont vous parliez tout à l'heure, un tout petit peu plus à l'ouest, vers Atoll, c'est un projet que vous évoquez effectivement dans la presse. Où est-ce que ça en est ? C'est quoi cette idée de projet à l'Atoll ?
Alors là, on reste encore dans le côté aussi très politique des choses. Bon, il y a un constat, il y a l'atoll qui fonctionne avec ses commerces, ses services de restauration et ses bars. Et on a un public qui ne reste pas sur le site le soir parce qu'il n'y a plus rien pour les retenir. Donc la compagnie Falsbourg, dirigée par Philippe Journaud...
qui gère l'atoll.
Oui, qui gère l'atoll, enfin, qui est le patron, l'investisseur de la compagnie Falsbourg, est intéressé par le cinéma. Mais il n'exclut pas qu'après le résultat des élections, il dépose un projet. Qu'est-ce qui va se passer ? Objectivement, si Cinéville obtient la CDAC, à l'atoll, s'il dépose un dossier, on ne mettra pas une autorisation de CDAC à l'ouest, à 2 km, à 5 km à vol d'oiseau du Gaumont ou des 400 coups. Donc ça risque d'avorter. Par contre, si le projet était refusé en Sud-Loire, il aura peut-être sa chance de pouvoir construire des salles. Donc la proposition, il est prêt à construire des salles. En fait, il n'a même pas besoin de permis de construire, parce que quand on dit Cinéville, c'est fin du premier semestre 2015. Il faut savoir qu'à l'atoll, sa coquille, elle est déjà prête. Il n'a plus qu'à mettre des fauteuils et des cabines de projection. Et avoir l'autorisation d'exploitation. Ça, il est obligé de passer en CDAC, pour l'autorisation d'exploitation.
En commission mais permis de construire.
Oui, voilà.
D'aménagement commercial.
Voilà. Demain, s'il a l'autorisation, en 3 mois, il y a les salles. Ce n'est pas le premier semestre 2015. Et il a une autre alternative, c'est de faire 3 salles. Et là, il ne demande rien à personne. Et au mois de juin, il y a 3 salles. Parce qu'en dessous de 300 fauteuils, ce n'est pas soumis à commission départementale d'aménagement commercial. Donc voilà, on est dans cette configuration à la fois... culturel, économique et politique, où nous, l'ABC, on peut rendre service, on peut être partenaire et on va aller dans le sens de celui ou de ceux qui vont nous faire des propositions intéressantes. Peut-être que personne ne va rien nous faire comme proposition intéressante et que on se mettra en cessation d'activité et qu'on appellera aux citoyens de dire bah voilà, vous allez à 25 salles dans le département qui vont disparaître, qui ne pourront pas être repris par le privé. Donc voilà, après, si nous, on a fait notre mission pendant 30 ans et qu'il n'y a plus de besoin et que le cinéma il se suffit à Angers, Cholet, Saumur, bah, très bien, et quelques salles associatives indépendantes, on aura peut-être fait notre mission, mais voilà.
Une dernière question, est-ce que vous avez des retours des habitués de l'ABC
Et vous avez deux types de comportements. Vous avez des gens qui... alors moi, je comprends les gens du Sud-Loire, hein, qui sont à Brissac, qui sont à Blaise-Angoyer, qui sont assez reculés. Quand ils aillent au cinéma, ce sera aux 400 coups au multiplex, ça leur fait quand même un peu de route. Plus le prix de la place, ça peut faire cher la soirée. Donc je comprends qu'il y a un besoin plus intensif de séances, parce qu'en itinérant, on n'y va pas tous les jours, on n'est pas dans toutes les salles, on est dans des petites communes, c'est vraiment un service culturel de proximité, mais il faudrait qu'on soit aidé publiquement, en finances publiques, du département, de la région, et des communes, de façon plus pertinente. Donc il y a un besoin d'une activité cinéma, oui, pourquoi pas, mais qu'on y soit associé, complètement. Donc aujourd'hui, nous les gens qui sont réactifs, c'est déjà des gens qui nous envoient des chèques, comme quoi ils nous envoient des dons pour nous soutenir parce qu'ils ont envie qu'on continue l'activité. Après, je dis le meilleur moyen aussi de nous soutenir, c'est de continuer à aller en attendant, à aller dans les salles, voir les films, mais pas dire bah non, on vient qu'une fois par an, parce que quand il y a Intouchable, quand il y a un gros film ou quand il y a Bienvenue chez les Ch'tis, quoi. Donc la meilleure façon de soutenir, c'est aussi de venir dans les salles.
D'aller au cinéma.
Voilà, à des tarifs préférentiels qui sont quand même deux fois moins chers que les pratiques tarifaires angevines.
Merci François-Noël Pavie d'avoir été dans le sous-marin.
Voilà, merci à vous de m'avoir invité.
Vous entendiez donc François-Noël Pavie, le directeur de l'association Les Amis du Bon Cinéma. Tout de suite, on écoute Portugal the Man, Modern Jesus. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette semaine, pas de débrief hebdo de l'actu, Sonia a pris sa semaine de repos, mais voici Antoine, tout remonté qu'il est.
Et ouais, Nelson Mandela est mort, certes, mais il faut continuer le combat contre toute forme d'injustice. Je dédicace ce billet d'humeur à tous ses fans. Nelson Mandela qui, durant des années, connu la souffrance de la prison, le poids de la discrimination, mais qui n'aura jamais eu à marcher dans les rues d'Angers en période de fête. Avant de poursuivre, je tiens à éclaircir un truc. Noël, je suis pour, disons plutôt que je suis pas contre. Je suis pas une contradiction près, et c'est avec un parfait athéisme que je déclare « Noël, je trouve ça coolos. Noël, ça me réchauffe mon petit cœur. Si tu viens me dire que Noël, c'est commercial, je te dirai de changer de disque, et que, si ça te plaît d'enfoncer les portes ouvertes, je te filerai le numéro de Yann Barthès. Noël, c'est un truc qui remonte à l'enfance, et à moins d'avoir eu une enfance difficile, l'enfance, c'est un peu le meilleur moment d'une vie. Le reste, c'est un bonus qui fait souvent chier. » Ainsi, je ne peux m'empêcher de me réjouir en décorant mon appartement, en me promenant dans la froideur de décembre, en laissant ces lumières aveuglantes et souvent bien laides m'emporter loin d'un cafard constant.
Antoine, ta mauvaise imitation de Pierre Desproges nous gonfle. Plutôt que de nous raconter ta vie, passe à la vitesse supérieure, explique-nous à qui s'adresse ce billet d'humeur.
Stephen, va falloir me parler mieux, sinon il s'adressera à toi et je m'efforcerai de te faire pleurer en direct. La victime de mon coup de gueule, j'y viens, tu la connais bien, en tout cas tu vas bientôt apprendre à la connaître, car si je dis pas de conneries, les municipales approchent et devraient alimenter ton émission jusqu'au printemps. J'ai moi-même fait la connerie de m'inscrire sur une liste électorale avant que ne survienne le drame que je m'apprête à vous narrer.
Apprête-toi Antoine, je t'en prie.
En parfait écocentrique que je suis, je ne prêche que pour ma paroisse, et quand je vais voter, je pense avant tout à ma gueule. Ma gueule, elle aime bien la musique, la culture, tout ça. Alors avant de mettre mon bulletin dans l'enveloppe, je vais me poser une question. Qui défendra le mieux mes intérêts culturels ?
C'est une excellente question que l'on se pose régulièrement dans cette émission, sans forcément avoir besoin de jouer les relous cyniques et misanthropes.
Mais en faisant ta maline.
Certes. Alors qui, d'après toi, et ça ne regarde que toi, défendra le mieux ta culture ? Et sacrebleu, quel rapport avec Noël ?
Tu me poses deux questions, alors je te donne deux réponses. Qui défendra le mieux la culture au sein de notre bonne vieille ville, notre bonne vieille cité, d'après moi ? Christophe Béchu présentait hier son projet culturel en s'affichant comme l'homme de toutes les cultures et de toutes les modes d'expression de la culture dark metal, la culture quepon, la culture de champignons. Christophe ne fera aucune différence, il sera sur tous les fronts. La prison d'Angers, une honte pour la ville, d'après lui, alors il nous propose de le transformer en musée d'art contemporain. Quoi de plus poétique et contemporain que des gens baisés par le système qui croupissent dans un bâtiment en ruine, mal entretenu par le système ? Il est ingénieux, Christophe, et comme il ne peut pas penser à tout seul, il s'est flanqué d'un monsieur culture qui nous vend du rêve, Alain Fouquet, 64 ans, ancien avocat.
Antoine, je m'impatiente pour deux raisons. Un, je ne suis pas patiente. Deux, je vois toujours pas le rapport. Je t'enlève un point pour le manque de cohérence.
Tiffaine, tu me rappelles une ancienne institutrice, ce qui étrangement me fait de l'effet. C'est une névrose que l'on explorera à un autre moment, parce que là, le dilemme dont je vous parle est bien plus important. Je vous disais que la culture, selon Béchu, ça pue du cul, mais ce que nous propose le maire non élu actuel, c'est pas beaucoup mieux. J'en viens donc au cœur de ma chronique, comment Frédéric Béatz m'a gâché Noël. Je vous ai dit que j'aimais Noël, hein, je vous ai dit ça.
J'ai plus envie de te parler.
Alors, laisse-moi me complaire davantage dans ma solitude et mon aigrerie en te racontant le drame qui m'a forcé aujourd'hui, jour de deuil national en Afrique du Sud, à embarquer dans ton sous-marin pour vomir mes conneries. En me levant ce matin, je m'attendais pas à une telle agression. Je sortais de chez moi, comme d'habitude, en sifflotant, l'esprit léger, le cœur gonflé par l'optimisme. Deuil national ou pas, une belle journée m'attend. Le sort m'a frappé à l'angle de la rue du Mail et de la rue Le Neveu, pas si loin de cette erreur d'architecture que l'on appelle hôtel de ville. Sortant sans prévenir d'un haut-parleur à qui je n'avais rien demandé, voilà mon agresseur.
J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en me sort lentement, dirigés sensualité.
Monsieur Béatz, je ne sais pas qui s'occupe de la culture chez vous, enfin, si je sais, mais je suis pas là pour balancer. En tout cas, je tiens à hausser le ton contre les responsables de ce crime sonore. Angers possède trois radios associatives que vous soutenez de tout cœur et on vous en remercie de tout cœur. Angers possède une scène musicale vaste et variée que vous soutenez de tout cœur et ils vous en remercient. Ou alors ils s'en foutent, j'en sais rien, je voudrais pas parler à leur place. Au lieu d'exploiter correctement la horde de groupes qui ne demande que ça, au lieu de nous solliciter alors que notre générosité n'est plus approuvée, c'est Axel Red que vous proposez aux pauvres citoyens qui ont fait la bête erreur de sortir de chez eux. Axel Red et un tas d'inepties laxatifs dont la liste est longue. Ce qui sort de ces haut-parleurs, dont l'installation ravira tous les amateurs de matraquage forcé et rendra jaloux les dictateurs en herbe, c'est du caca offert par Chéri FM. Je déconne pas, j'ai entendu le rhabillage sonore juste après, et si je m'étais pas engouffré dans le tramway, j'aurais probablement eu le droit à une coupure publicité. Comment je fais maintenant, moi, avec ces conneries, pour choisir mon futur maire ? Comment je vais faire pour ne pas avoir envie d'hiberner plutôt que d'aller squatter le stand de vin chaud toute la journée ou taper la bise à un Père Noël rachitique ? Et plus important encore, comment convaincre mon entourage, ou ce qu'il en reste, de la magie de Noël ? Cette faute de goût impardonnable ne fait qu'affaiblir mes arguments, et je risque, à force d'entendre Axel Red me parler d'amour, de ne plus parvenir à défendre mes idéaux. Nelson Mandela est mort, mais il me restait Noël. Une célébration dont l'aspect religieux, familial ou commercial peut vous gonfler, mais qui représente avant tout une joie intérieure que chacun se crée, une illusion dont on a forcément besoin. Les gens sortent s'acheter un arbre pour le décorer avec des guirlandes lumineuses, puis ils appellent ça un sapin de Noël. C'est juste un arbre idiot, mais il devient un objet magique. Jésus, ton anniversaire, je m'en tape, mais ça n'empêche, Noël est une fabuleuse machine à générer de la joie. Alors, j'aimerais bien que ça, on ne me le cache pas.
Antoine, toujours de très bonne humeur et de passage exceptionnel dans le sous-marin.
La bise.
La bise. Et c'est l'heure de retrouver Clara à la barre pour sa chronique sexo. Clara, ce soir, tu nous parles de l'orientation sexuelle.
En effet, alors être homo, hétéro, bi, aujourd'hui, les orientations sexuelles sont égales. Alors l'orientation sexuelle, c'est quoi ? Eh bien, cela désigne le désir affectif et sexuel, l'attirance pour des personnes du même sexe que soi, donc l'homosexualité, du sexe opposé, l'hétérosexualité, ou pour les deux sexes, la bisexualité. Pour certains ou certaines, cette préférence est tout de suite très affirmée. Elle s'impose donc comme une évidence. Pour d'autres, elle est moins immédiate, plus fluctuante et parfois dure à assumer. On a pu le constater notamment chez beaucoup de jeunes en crise d'adolescence qui ne voulaient carrément pas se l'avouer ou tout simplement l'annoncer. Parlons donc des questionnements de l'adolescence justement. On se connaît depuis la maternelle, on a toujours été amis et tout d'un coup on est attirés l'une par l'autre. Il nous est même arrivé de nous embrasser, de nous caresser. Est-ce que cela veut dire que l'on est homosexuel ? Peut-être et peut-être pas. En effet, à l'adolescence, notre vie affective et sexuelle subit de profonds bouleversements. C'est une période d'intense évolution où l'on ne comprend pas très bien ce qui se passe en nous. Une attirance soudaine pour quelqu'un du même sexe est peut-être une étape de cette évolution. Elle peut correspondre à une réelle préférence sexuelle ou au contraire, c'est une attirance temporaire. Et on passe à autre chose. C'est à l'adolescence ou même après, quand la maturité vient en nous, que l'on s'essaye à différentes choses. D'ailleurs, je le conseille vivement, c'est une quête d'expérience, mais c'est aussi une quête d'identité. Se connaître soi et ses envies. Des envies d'ailleurs qui ne sont parfois pas exploitées, rendues à la quarantaine, et cela peut entraîner une frustration sentimentale, mais aussi sociale. Beaucoup de familles, de pères ou de mères mariées vont changer de bord du jour au lendemain. Alors prenez le temps et essayez-vous à de nouvelles choses. Si vous en avez envie, bien sûr. Mais n'ayez pas peur de l'inconnu, ni d'un jugement quelconque. Cela reste votre intimité si vous ne débordez pas trop, bien évidemment. L'orientation sexuelle est en nous, mais elle est parfois enfouie et réfutée par je ne sais quelle raison. Je prône donc les expériences en tout genre. Cela ne peut que vous faire avancer ou vous traumatiser. Oui, je le conçois, mais gérez cela comme il se doit. Et puis, à travers cette expérience, nous nous croyons fixés, mais nos préférences peuvent évoluer. Et oui, on ne se déclare pas un beau matin homosexuel ou hétérosexuel, ce n'est pas un choix que l'on fait. Cette orientation se construit en nous, sans que nous en ayons forcément confiance. Elle finit par s'imposer à nous. Alors pas de culpabilité, et puis une orientation affective et sexuelle, ça peut évoluer. On n'est pas enfermé toute sa vie dans une case homo, hétéro ou bi. Il arrive que des personnes hétéro-mariées qui ont des enfants s'autorisent à 40 ou 50 ans l'amour homosexuel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et venons maintenant à la question rhétorique des jeunes qui est « suis-je normal ?». Malheureusement, beaucoup de personnes qui sentent en elles une attirance pour le même sexe ou pour deux sexes à la fois se posent la question « est-ce que je suis normal ?». Eh bien, on est élevé dans une société où, quand le couple est représenté, c'est la plupart du temps, avec un couple hétérosexuel, les images publicitaires, les fictions, nos repères familiaux et historiques nous donnent l'impression qu'être normal, c'est être hétéro. On présuppose toujours que les autres sont hétéros, c'est une pensée logique. Mais celle-ci évolue, et bien heureusement d'ailleurs, à travers le mariage homosexuel. Voilà, j'ai envie de dire amen, enfin, il était temps de vivre justement avec son temps. Donc cette question « suis-je normal ?» est donc dans la normalité, mais ce qui est normal, c'est d'écouter son cœur et ses envies. Alors oui, tu es normal si tu suis tes préférences et ton instinct.
Mon cœur me dit d'aller voir ce qui se passe du côté des animaux. Je dois écouter mon cœur ou pas ?
Écoute, la zoophilie, je pense que c'est quelque chose qui...
T'es pas obligé de l'aborder, ça fera l'objet d'une autre chronique.
Ouais. Ok, je ferai ça la prochaine fois.
Ça, c'était Antoine, une intervention gratuite comme ça. Tout de suite, on s'écoute. Jake Bug, What Doesn't Kill You.
Slipped out the door 2 a.m. yesterday. Me and my friend keeping the night aflame. And as we're walking in the clear light, two guys come up and take him out of sight. Oh, I know what's what they eat him hard. He doubles up, they take his money and they run. And all I can do is watch them go. His hands are around his nose. His blood is on his foes. Then finally you breathe.
kept me up at night. I couldn't face the world without her eyes. I never knew it till she disappeared. My life will be a bunch of souvenirs. Oh, I know what's what it is. A heart, she doubles up, she packs a bag and then she runs. And all I can do is watch her go. I've lost all I own.
Et après cette petite pause musicale, Clara, tu reprends ta chronique avec quelques conseils.
Et oui, quoi qu'il arrive, si quelqu'un est dans ce cas, m'écoute, ma seule phrase est « je t'aime comme tu es ». Tu t'aimeras comme tu dois être, personne ne doit te juger et personne ne doit te dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. C'est un travail et une acceptation qui se fait au fil du temps et cela dépend de ceux qui t'entourent, mais tu seras heureux quand t'écoutant toi, te forcer ne te mènera qu'à la souffrance. Alors je conçois tout de même que cela peut être difficile et que pour cela... Il existe des lieux d'écoute où on peut en parler, la ligne Azur par exemple, qui est un service anonyme et confidentiel d'aide à distance pour toutes les personnes qui s'interrogent justement sur leur santé sexuelle. Et il y a également Casar à Angers. Donc les mots d'ordre là-bas sont culture et liberté homosexuelle. Alors aimez-vous quoi qu'il arrive.
Merci Clara. Et tout de suite on retrouve Mathilde, l'ultime chroniqueuse de la semaine, mais comme disent les Anglais, last but not least. Mathilde, raconte-nous ce que t'as fait hier.
C'était hier soir et c'était au T-Rock Coco, mon petit plaisir de la semaine. Une soirée électro comme je les adore, dans la cave oppressante du T-Rock. Il y avait programmé Lisa Moon, Kafra et l'invité surprise Oslim, un ancien rappeur et beatboxer. Pour une soirée tech électro dirty qui s'achevait tranquillement, en drum and bass, un cocktail parfait. Oreilles sensibles, s'abstenir. Ça commençait doucement derrière les platines avec une entité féminine, oui, Lisa Moon, pour une techno sensuelle qui évolue en électro dirty saupoudrée de touches fines de breakbeat. Si, si, elle m'expliquait hier qu'elle a commencé en 2000. Son premier club, en Suisse, à Genève, dans un club gay sur de la Deep House. Deep House ? Un son électronique aux basses puissantes avec des sonorités jazz, soul, type Saint-Germain-Touris, si vous connaissez. Depuis 2000, son bagage s'est alourdi, et en fait, elle bouge de ville en ville, de ville en ville. De Paris à la Bretagne, d'où elle est originaire, en Savoie, en Suisse, à Londres, où elle retrouve sa bookeuse Betty Page de Call My Agency, à Bruxelles. Rajoutons à cela 3 années de marraine à la Urban Jungle, soirée électro-angevine signée Capsule. Et elle joue à la Trix Party en mars dernier. Mais là où elle m'a mis des étoiles plein les yeux, c'est quand elle m'a dit le plus humblement du monde « Ah oui, et Astropolis aussi, j'ai gagné le tremplin en 2008 ?» Ah bah oui, rien que ça. Mais elle est venue accompagnée de Kafra, originaire de Marseille, mais pour qui la scène angevine n'était pas une première, et surtout, on changeait complètement de style. Kafra pour un son plus raga, drum and bass. C'était un des premiers DJ des Massilia Sound System, groupe de reggae marseillais. Et lui, il commençait en 86. C'est sans offense un papy de la scène. Mais papy efficace non moins, puisqu'en fin de soirée, c'est un battle qui s'est instauré entre Lisa Moon, qui, d'un son électro-dirty plein de basses, au BPM relativement lent, est passé plus brutalement à la drum and bass avec Kafra. Chacun un morceau, chacun son vinyle, ils se succédaient aux platines, avec Oslim qui ponctuait le tout de beatbox. La DJ angevine Lisa Moon et Kafra nous ont donc retourné hier dans la cave du T-Rock, avec un son brutal drum and bass, mais avec la finesse et la délicatesse d'une femme, plutôt rare dans le domaine.
Et on poursuit donc avec ton bon plan de la semaine.
C'est le bon plan de la semaine parce que c'est un melting pot musical blues et que c'est vendredi, soir de décompression de la semaine et des plateaux télé et que c'est gratuit. Pour les habitués des Buff Blues au T-Rock, c'est l'assaut Caméléon qui organise cette année un Big Buff Blues au Shabada. C'est un rendez-vous musical où on apprécie, participe et regarde une trentaine de musiciens blues et c'est ce soir à 20h45 au Shabada.
Shabada toujours jeudi prochain.
Von Paria le 12 au Shabada pour une scène nantaise post-punk et ultra énergique. Leur bagage c'est un EP et un son Someone New que j'aime particulièrement. I want you to love me the way I do. Et puis c'est d'actualité, les 6 de Von Paria ont fait carton au Transmusical l'année dernière et aux Eurocnéennes. adorateur de Joy Division et des dessous très punk des années 80, c'est pour vous. Les Inrock disaient en septembre des ambassadeurs rock'n'roll de la génération Y, relatant les petits tracas de la vie quotidienne et retransmettant ses émotions horizontales à travers le prisme agité du post-punk. Et en première partie, ce sera Electropop avec Griefjoy.
Ton chapitre électro cette semaine, c'est ça.
Pour les amateurs d'électro aux douces sonorités trip-hop, c'est Spectateur qui sera au Bar du Quai le 12 décembre, et non Tilacine comme annoncé dans la programmation. Une beatsmakers, partie entre le 12 et le 19. Spectateur que vous avez probablement vu à la soirée court-circuit fin octobre. Pour une scène purement angevine, il nous relance son projet musical après une pause. Il m'avait dit quelques mois plus tôt faire de l'abstract hip-hop à base de samples. Même principe qu'Arturo Rotunda avec son morceau Presley. Après deux EP, dont le dernier Souvenir chez Fresh Pulp Records en 2011, il revient de plus en plus sur Angers. Et c'est jeudi prochain. Spectateur, c'est un son électro, oui, mais doux, sur une mélodie trip-hop avec quelques beats pour dynamiser le tout. Planant, un son qui vous traîne dans une toute autre dimension électronique, une extra-réalité, au final pas du tout un électro qui nous fera saigner les tympans.
Si on veut parler anglais cette semaine, ce sera avec...
13e semaine de cinéma de la langue anglaise, du 4 au 10, au 400 coups. J'ai choisi d'éplucher quelques films à voir absolument. Mud, Moonrise Kingdom, qui sont passés mercredi et hier soir, et ce soir, Reviens-moi, qui commençait à 18h, pour un débordement lacrymal intense et des Kleenex par million. À l'affiche, pour le reste de la semaine. Mathilda, vous connaissez sûrement le livre de Roald Dahl qui doit faire appel à vos premiers romans jeunesse. Mathilda, une petite fille débordante d'intelligence qui vole les journaux de ses parents stupides et méchants pour apprendre à lire toute seule à peine 6 ans. Tout oppose la douceur et la méchanceté autour de Mathilda. Sa maîtresse, qui lui reconnaît son intelligence et la soutient, et ses parents, idiots et rebutés, et la directrice, une horrible femme qui terrorise ses élèves. Ce film est l'occasion de placer des visages sur une lecture de votre enfance et c'est demain au 400 coups à 13h30 pour 6 euros. Certains diront « Burke, de la littérature pour adolescents » ou « Hunger Games, un copier-coller de Battle Royale ». Alors oui, et oui, sûrement, mais ce sont quand même des livres qui ont apporté un concept novateur avec, je le concède, une écriture romanesque, adolescentesque, mais qui ne les rend pas détestables. Niveau adaptation, c'est toujours agréable de se poser des images sur sa lecture. Katniss Everdeen vit dans le 12e district, dans un univers où le reste du monde a disparu. Il ne reste que 12 districts, appauvris, et l'impitoyable Capitole qui assoit son pouvoir sur le peuple. Chaque année, deux tribus sont sélectionnées dans chaque district pour participer aux Hunger Games. Le but ? Rappeler au peuple le pouvoir de vie ou de mort du Capitole, et pour les tribus, un seul survivant. Lundi, de 13h30 au 400 coups. Une éducation maintenant avec Peter Sarsgaard, initialement l'autobiographie du parcours de Lynn Barber, une journaliste anglaise. C'est en 1961, et Jenny a 16 ans. Ça se passe dans une Angleterre pré-Beatlesienne. Elle est brillante, elle s'apprête à rentrer à Oxford. Tout est parfait jusqu'à ce qu'elle rencontre un homme de deux fois son âge. C'est une découverte avec l'éducation, la vie, l'amour, les voyages et le côté sophistiqué de la société qu'elle acquiert avec lui. Mais elle doit faire un choix quant à son avenir. C'est mardi au 400 coups à 18h. Vous, adorateurs des versions originales sous-titrées, amoureux de l'anglais et du cinéma, cette semaine de cinéma de la langue anglaise est pour vous. C'est aussi Princess Bride de Rob Reiner, un film de 1988. Et Des souris et des hommes, version avec John Malkovich. Un film qui vous nourra l'estomac et fera pleurer même les plus insensibles d'entre vous.
En résumé donc.
Cette semaine, c'est aussi une session rap avec Seth Gecko et Al Capote en première partie le vendredi 13. Un concert proposé aussi par Ultrason à l'espace culturel demain soir. Et Antigone au quai mardi 10.
Et j'ajoute juste que la chorale Malagasy Gospel Choir donnera un concert demain à 20h30 au Grand Théâtre. C'est entre 5 et 15 euros l'entrée. Merci Mathilde pour cet agenda. Et vite, je vous parle de la soirée qui vous attend au Welsh à 20h15, soirée cabaret avec la Ligue de Théâtre d'Impro, la Lima, 4 euros l'entrée. 20h30 à la salle Claude Chabrol, ce sera la pièce Dag. Vox Campus se produit avec la chorale de l'Université de Burgos à 20h30 à la Chapelle des Ursules. Au West Indies Café à 20h30, vous pourrez entendre le groupe Emma Manu. À la même heure, à l'Étincelle, concert punk rock, punk hardcore et aussi, oui, free jazz. Jam afro au T-Rock à 21h. soirée arsonnant au bazar à tapas. À 22h au Jacaré, pardon, vous retrouverez Jalanger Sound, à l'Okapi à 22h30, mix drum and bass par DJ Safé. Et puis, Mathilde vous en parlait tout à l'heure, Big Buff Blues au Shabada à 20h45, c'est gratuit. Libre à vous donc ce soir, il y a le choix. Nous, on vous laisse derrière votre poste choisir tranquillement et on lâche l'immersion. Aux manettes, c'était David et derrière les micros, Thomas, Antoine, Clara, Mathilde. Vous pouvez nous réécouter en podcast sur le site internet de la radio. Tout de suite, vous retrouvez Sine Qua Non. Je vous conseille d'écouter cette bande de bouffeurs de films. Avant de remonter à la surface, on vous quitte avec la bulle sonore. C'est le zapping réalisé par les soins de Flavien. Merci à vous d'avoir embarqué dans le sous-marin. Passez une très bonne soirée et un très bon week-end aussi. On se retrouve lundi à 19h. Allez, bisous.
Alors nous sommes en 1985 et ce soir c'est Bernard Tapie qui nous enchante les oreilles mais aussi notre cœur dans un slow éducatif qui sent bon le comme d'habitude de Clo-Clo.
Oh.
Bernard qui nous donne une leçon de vie parfaite, au moins de son point de vue. Monsieur Tapie est alors jeune entrepreneur passionné de musique. Faut-il rappeler qu'il a fait un duo avec Doc Gineco qu'on peut entendre où il chante d'une voix mielleuse. Ouais, c'est beau la vie.
Et je propose direct, pour vous montrer un peu le ton du jeu qui n'est pas vraiment perceptible, de vous faire écouter des répliques. Vous avez quelques secondes pour reconnaître le pays. J'en ai choisi trois.
Oui, pour des idées. Je n'ai jamais mangé de confiture. Nous ne sommes pas doués pour les guerres. Le pacifisme, ça marche moyen.
Je vais t'exploser ton moi. Freud aurait adoré ça. Je ouais, suis d'accord. Ma poule.
C'est le candidat FN, tête de liste à la mairie d'Avignon, j'ai nommé Philippe Lothiot. Alors Philippe, c'est le genre des mecs qui en plus a un répertoire de dingue au niveau blague pas drôle, je vous en donne quelques-unes. La loi sur le mariage gay, vous savez, c'est toujours mieux qu'un mariage triste. Et d'ailleurs, évitez les pères écologistes, vous imaginez un enfant avec deux pervers. Non, je vous en supplie, vraiment, il faut l'aider. C'est le genre de blague suivi d'un gros blanc, genre je voudrais disparaître 6 pieds sous terre, ça va pas du tout.
Pierre est une grosse orgasme. Peut-être les armes, c'est sexuel. C'est parce que vous avez une petite quéquette. Maman, je t'aime.
Mais c'est génial.
De retour dans votre émission Festival, votre émission métal sur Radio Campus Angers 103.fm. Une dernière news qui vient de tomber, Nelson Mandela vient de mourir, donc petit hommage à ce grand homme qui a combattu l'apartheid, voilà. Donc je tenais à le dire, ça n'a rien à voir avec l'émission métal, mais je tenais à le dire, ça, c'est assez important.
Alors, on fera pas de mauvaise blague dessus, mais c'est vrai que c'est un homme qui a marqué l'histoire et on peut pas passer à côté. Quoi.
Non, c'est exactement. Clair, voilà. On peut pas. Bon, mis à part ça, on est dans une émission.
Ouais, donc on s'amuse bien, mais bien, faites venir. Hein.
En même temps, je t'avais dit d'acheter les infos à une vieille pute dans un camion sur le bord d'une autoroute. C'était pas forcément gage de garantie, quoi.
Elle semblait fiable.
Ouais, enfin, t'as pas vu ce que j'ai vu, quoi.
Mais bon, une femme avec une moustache, moi, ça me...
Oui, toi, ça
rappelle... Moi, ça me va.
Ça te rappelle ta mère en même temps, c'est pour ça, quoi. Jacqueline.
Eh ben, c'était quelqu'un de très bien.
Je ne dis pas le contraire. Elle portait très bien la moustache, d'ailleurs.
On partage le même trajet, on restera des étrangers face aux mille qui défilent. Dis-leur qu'on s'est croisés. You know, on s'est croisés ce soir, Radio Campus. Hier, yeah. Robin, Marion, l'émission c'est Turbulence, ça fait.
Yellow submarine, we all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.